Hector Malo. Complice. Seconde partie. Chapitre 1. Dans l'étude, Fauchon occupe maintenant le fauteuil du maître Claire. Boulnois est toujours à la caisse. Léon, dépaysanné, est passé second clerc et a pour remplaçant un gamin du pays qu'il éblouit le dimanche par son élégance, ses gants, sa canne à pommes d'argent et ses bottines vernies. Enfin, au bureau de Fauchon est adossée une table qu'occupe un clerc amateur, Médéric Artaud, qui arrive à midi quand il vient et repart à 4 heures, après avoir parcouru les journaux, coupé le roman nouveau qu'il a apporté de Rouen ou pris des notes dans les livres de botanique ou d'histoire naturelle que lui prête Turlure, avec qui il travaille quelquefois les sciences. Comme il est brave garçon et d'humeur facile, comme il offre à chaque instant d'excellents cigares et distribue à ses camarades ses journaux et ses romans aussitôt qu'il les a lus, il fait bon ménage avec tout le monde, même avec Boulnois, qui respecte les 30 000 francs de rente de sa mère et la belle maison qu'ils occupent à l'extrémité du village, sur la route d'Elbeuf, au milieu de grands arbres. C'était précisément Boulnois qui avait fait visiter cette maison, affichée depuis 2 ans sans trouver d'amateur, et en revenant de la montrer à la mère et au fils, il en avait eu long à raconter sur eux. Des gens tout à fait bien. La mère, veuve d'un commerçant mort en Cochinchine. Le fils vient de finir son volontariat, et elle est si bien affolée de maternité que pendant 7 années de volontariat, elle a été habitée ma mère, où le régiment était en garnison, et que là, elle a tenu table ouverte pour ceux des camarades de son fils que celui-ci invitait. Maintenant, elle ne veut pas rentrer à Rouen, bien qu'elle y ait de la famille, les Bouttevillains de la place de la Pucelle, pas plus qu'elle ne veut aller à Paris, parce que son fils, dont la santé a été éprouvée dans sa première jeunesse par le climat de l'Orient, a besoin du séjour de la campagne et du voisinage des forêts, ce qui lui fait choisir Oissel. De plus, elle trouve qu'à Oissel, il sera assez près de Rouen pour y aller tous les matins prendre des leçons de droit chez un avocat, et aussi pour y retourner le soir quand il aura envie de passer la soirée au théâtre, avec la possibilité de revenir coucher à la maison. « Alors c'est bébé, ce garçon-là, » dit Fauchon. « Pour sa mère, oui, mais quant à lui, il a l'air assez dégoujiné. » Pour signer le bail, Madame Artaud était venue à l'étude et elle avait alors adressé à la Vaupalière une demande que celui-ci, malgré l'envie qu'il en avait, ne pouvait repousser à cause des recommandations qu'il appuyait. Celle d'accepter son fils comme clerc amateur. Que ferait-elle de lui plus tard? Cela n'était pas décidé. Pas un commerçant, à coup sûr, mais peut-être un notaire ou un magistrat. Aussi, en attendant, était-il bon qu'il s'habituât aux affaires dans une étude où il ne prendrait de travail que ceux qui seraient utiles à son éducation. La famille Bouttevillain saurait reconnaître ce service. Ainsi composée, l'étude ne ressemblait en rien à ce qu'elle était du temps de Courteheuse. Si on y travaillait, on y plaisantait aussi, sans craindre que le patron ouvrît tout à coup la porte de son cabinet, l'injure à la bouche. La Vaupalière était plutôt un camarade pour ses clercs qu'un maître sévère. Et pourvu que la besogne fût faite, il n'en demandait pas davantage, laissant toute liberté à chacun pour le reste, ce dont Boulnois profitait plus que personne, étant toujours en retard maintenant pour arriver et en avance pour partir. Les changements qui s'étaient produits dans la maison n'étaient pas moins radicaux que ceux de l'étude. Au temps de Courteheuse, il n'y avait jamais de réunion au notariat, car il n'aimait pas plus aller chez des gens pour qui il aurait dû se gêner qu'en recevoir chez lui qui le gênerait. Les seuls convives qu'il admit à sa table étaient des clients qui devaient payer cher le dîner qu'il leur offrait, comme les seules invitations qu'il acceptait étaient celles qui, en fin de compte, devaient aboutir à des relations productives. Pour lui, la politesse était une corvée au-dessus de ses forces, et partager un bon dîner avec quelqu'un quand il pouvait le manger tout seul lui paraissait une duperie bonne pour des imbéciles. Que sa femme pensât ou ne pensât pas ainsi là-dessus, peu importait. Il avait épousé pour lui, non pour elle, et il n'allait pas embarrasser sa vie d'un tas de niaiseries qui, finalement, lui coûterait cher. Avec les dîners, on ne gagne pas d'argent, on en dépense, en menu dispendieux chez soi, en toilette chez les autres, et le gaspillage lui était une souffrance, comme l'économie une jouissance. Mais, avec la Vaupalière, ses mœurs, douces mal léchées, n'avaient pas continué. Courteheuse, fils de paysan, était resté paysan, et il s'était bien gardé d'adoucir par l'éducation la rudesse de son caractère et la brutalité de sa nature, ce qui, croyait-il, l'aurait affaibli pour les luttes de la vie. Au contraire, la Vaupallière, fils de petit bourgeois, élevé au collège, en possession à 20 ans d'un héritage dépensé à mener la vie joyeuse à Paris, avait des goûts et des besoins moins primitifs. L'un était le bourgeois, la première génération, à qui il suffit d'être affranchi du rude travail de la terre et de gagner de l'argent pour le plaisir de l'entasser et d'établir dessus sa sécurité. L'autre, citadin depuis plusieurs générations, n'aimait déjà plus l'argent que pour ce qu'il rapporte. Le bien-être, le luxe, la dépense, le paraître, la vanité ou le rang, ces satisfactions des classes dirigeantes qui ne tardent pas à ramener les fils au point d'où sont partis les pères. Aussitôt mariés, Hortense et la Vaupallière, d'accord en cela comme en toute chose, avaient mis la maison sur un pied nouveau. Deux canots étaient venus s'amarrer devant le kiosque. L'ameublement des appartements avait été changé. Enfin, à Célani, restée cuisinière, avait été adjointe une femme de chambre qui devait servir à table. Ce nouveau genre d'existence allait coûter assez cher, mais cela n'était pas pour arrêter la Vaupallière qui avait établi son budget de telle sorte que, pourvu que celui des dépenses ne dépassât pas celui des recettes, ne demandait rien de plus. Son ambition, en effet, n'était pas d'amasser de la fortune, mais simplement de vivre le mieux possible, agréablement, sans trop de peine. Et, comme il le disait lui-même en plaisantant, l'usage du bas de laine, qui pendant longtemps a fait la richesse de la France, était pour lui passé de mode, de même que l'étaient aussi les vieilles mœurs casanières du coin du feu. En avant et au jour le jour. En arrivant à Oissel, Courteheuse n'avait fait de visite que celle strictement commandée. Au contraire, la Vaupallière, aussitôt mariée, avait fait toutes celles que les convenances permettaient, et comme avec cela le mari, aussi bien que la femme, se montrait également aimable, comme ils avaient l'invitation facile et ingénieuse pour varier les plaisirs offerts, promenades en rivière ou en forêt, collations dans les îles, goûter dans le kiosque, déjeuner et dîner à la maison, on recherchait ces invitations et nulle part ils ne trouvaient un refus. Charmantes les réunions du notaire. Quelle différence avec ce goujat de Courteheuse! Quand Madame Artaud s'était installée à Oissel, ça avait été pour elle une bonne fortune que cette maison ouverte où l'on s'amusait. N'était-ce pas précisément ce que pouvait souhaiter de mieux une mère en peine de fils à garder? Le mari et la femme d'humeur gaie, intelligents l'un et l'autre, de relations faciles, aimant le plaisir, Médéric ne s'ennuierait pas, et pendant la saison d'hiver, où ses amis ne viendraient que difficilement à la campagne, elle aurait des distractions à lui offrir. À la vérité, l'intimité avec une jeune femme n'était pas sans offrir certains dangers, car enfin il pouvait s'y prendre d'elle. Mais s'il eût été imprudent de ne pas prévoir ces dangers, d'autre part, il ne paraissait pas qu'elle dût sérieusement s'en inquiéter. Comme elle appartenait au type normand dans ce qu'il a de correct et de froid, étant de belle taille, avec des attaches fines et la taille élancée, le regard doux, le visage placide, la carnation rosée, elle n'admettait pas que son fils pût s'éprendre sérieusement d'une parisienne irrégulière et bizarre qui, pour elle, était plutôt un gentil gamin qu'une femme. D'autre part, comme elle appartenait à la catégorie des honnêtes femmes, elle n'admettait pas davantage que cette parisienne qui aimait son mari et était aimée de lui put accepter qu'un jeune homme devint sérieusement amoureux d'elle et encouragea ce sentiment, alors même que ce jeune homme serait doué de tous les charmes et de toutes les qualités qu'elle reconnaissait à son fils. C'est dans les romans qu'on voit ces amours naître et se développer au point de tout emporter, et Dieu merci, la vie ordinaire ne ressemble pas aux romans. Cependant, si, contrairement à ce qu'elle se croyait en droit de prévoir, Médéric trouvait dans cette parisienne un attrait que, quant à elle, elle n'apercevait pas, elle le connaissait trop bien pour imaginer qu'il s'obstinât dans un caprice qu'on n'encouragerait pas. Et certainement, Madame la Vaupallière était trop attachée à ses devoirs pour jouer à l'amour, comme de son côté, Médéric était trop sensé, trop raisonnable, trop son fils, pour vouloir y jouer de son côté. D'ailleurs, elle serait là, mère attentive, et ferait bonne garde.